wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Spectacle vivant.
Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Marie Sorbier, Caroline Châtelet, Philippe Chevillet, notre affiche Hors la loi. Texte et mise en scène, Pauline Bureau. C'est jusqu'au 7 juillet la Comédie française dans sa salle du Vieux Colombier. Retour et Le père de l'enfant de la mère, deux textes de Frédéric Bradberg, mis en scène par Frédéric Bellier-Garcia jusqu'au 30 juin au théâtre du Rond-Point. Je poussais donc le temps avec l'épaule d'après la recherche du temps perdu de Marcel Proust, mise en scène Charles Torgeman au Théâtre de la Ville à l'Espace Cardin jusqu'au 22 juin. Un coup de cœur de Marie Sorbier pour la quadriennale de Prague jusqu'au 16 juin. Et puis je dirai aussi quelques mots du spectacle de Gaël Bourges à Mon seul désir qui va être repris au carreau du Temple. Nous ouvrons cette dispute avec Hors la loi. Texte et mise en scène, je l'ai dit, de Pauline Bureau, jusqu'au 7 juillet à la Comédie française, Vieux Colombier, après Modèle, Aude féministe et Mon cœur sur le scandale du Mediator. Pauline Bureau fait une entrée très remarquée à la Comédie française en signant une pièce sur le procès de Bobigny en 1972 qui amena la société française à une prise de conscience qui donnera naissance à la loi Veil, votée en janvier 1975 pour le droit à l'avortement. Alors il y a d'abord dans la pièce et dans l'histoire, l'histoire de Marie-Claire, violée à 15 ans et qui aura recours à l'avortement, à l'époque clandestin. Puis évidemment, on verra le procès lui-même. Une première impression sur Hors la loi, Marie Sorbier ?
Oui, moi c'est un spectacle qui m'a vraiment fait m'interroger sur le pouvoir du théâtre et ce qu'en font ou pas les metteurs en scène.
Caroline Châtelet.
Alors c'est un sujet qui est passionnant et puissant, mais sa mise en scène est trop didactique.
Philippe Chevillet.
Alors pour moi c'est un spectacle indispensable, je pense, sur la lutte pour l'émancipation des femmes et qui prouve qu'on veut faire du théâtre et du documentaire, du théâtre avec le documentaire.
En guise d'extrait, celui de la plaidoirie de Gisèle Halimi, interprétée par Françoise Gillard.
Dans la logique de la contraception, je dis qu'est inscrit le droit à l'avortement. Alors supposons que nous ayons une parfaite éducation sexuelle. Supposons que nous ayons une contraception véritable, publique, populaire, gratuite, on peut rêver. Prenons une femme libre et responsable. Eh oui, parce que les femmes sont libres et responsables. Prenons donc une de ces femmes qui aurait, elle, contrairement à ce qu'on reproche aux autres, informé régulièrement son médecin qu'elle ne voulait pas d'enfant, qui serait sous contraceptif, et qui se retrouve malgré tout cela enceinte. Que faire ? J'ai posé la question à tous les médecins et ils m'ont tous fait la même réponse, à l'exception d'un seul : il faut qu'elle avorte. Personne ne peut soutenir, du moins je l'espère, que l'on peut donner la vie par échec. Et il n'y a pas que l'échec, il y a aussi l'oubli. Supposez que l'on oublie sa pilule. Eh oui, monsieur le procureur, on peut oublier sa pilule. Peut-être que vous trouvez ça absolument criminel, mais on peut oublier sa pilule. Et dans certaines circonstances, on peut même aussi la vomir. Alors, l'échec, l'erreur, l'oubli, vous voudriez contraindre la femme à donner la vie par échec, par erreur, par oubli ? Nous n'avons pas le droit de disposer de nous-mêmes. Un être humain qui n'est pas propriétaire de son corps, c'est un esclave.
Voilà pour cet extrait, donc c'est dans la partie du procès. Avant cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même ce qui est arrivé à la très jeune Marie-Claire. Il faudrait peut-être en effet, Philippe Chevillet, décrire aussi l'espace de jeu dans lequel ce spectacle a lieu.
Alors, c'est un espace qui m'a surpris d'une certaine façon parce que Mon cœur, le spectacle précédent, on avait un décor, on était dans le noir, ça faisait penser un peu à du Pommerat ou de Julien Gosselin. Il y avait un univers très dépouillé. Et là, on est dans, dans une scénographie très construite, j'ai trouvé.
Comme dans Modèle, qui était d'ailleurs.
Comme dans Modèle. Et un peu comme
ça, avec des boîtes comme
un
ça.
Un peu comme dans Sirène, et moi j'étais resté sur l'impression précédente. Et donc, ça prouve pour moi la capacité de renouvellement de Pauline Bureau et que son univers, elle a un spectre large. Alors, comme c'est une pièce qu'elle a, et un spectacle qu'elle a voulu monter. Cache de front avec un côté effectivement un peu didactique. On a donc deux parties dans le spectacle qui sont illustrées par un spectacle par un décor évolutif. Donc dans une première partie on a un appartement avec beaucoup d'arrière-plan, c'est-à-dire qu'on a à la fois des pièces dans lesquelles vont se passer l'avortement justement de la jeune fille. On a une cour aussi qui va être utilisée aussi pour l'appartement du violeur au début de l'histoire parce que tout nous est montré. Et puis ce décor va changer, il y a une espèce de sas à un moment donné, qui est le moment où on se retrouve, où les deux femmes vont trouver Gisèle Halimi dans son bureau. Et là, on a le bureau de Gisèle Halimi qui est construit. Et petit à petit, on va arriver au tribunal avec un système aussi des éléments de décor qui sortent du sol ou qui disparaissent. Et encore un arrière-plan où on peut voir les accusés derrière en fond. Donc, elle joue sur beaucoup de plans à la fois. Et néanmoins, c'est un décor qui peut paraître à la fois hyper réaliste, mais qui a un côté stylisé, moi, je trouve, qui crée une atmosphère assez étrange. Et sont utilisés aussi des éléments de vidéo qui créent des petits décalages poétiques. Et il y a un moment de vidéo qui est très fort, mais peut-être qu'on en reparlera.
Ben, on va en parler. On va entrer dans cette dispute véritablement avec vous, Marie Sorbier.
Oui, alors moi j'ai des sentiments très ambivalents sur ce spectacle, non pas sur le fond, évidemment, on l'a dit, c'est des sujets qui sont importants à aborder, mais alors plutôt sur la forme, parce que ça m'a quand même beaucoup interrogée sur l'utilisation du théâtre, notamment quand un metteur en scène, ici Pauline Bureau, a envie, mais alors très envie de nous faire passer un message. Et alors tout devient très concret. Tout est très figuratif et moi ce qui m'a gênée c'est qu'il n'y a aucune transformation. Or ce que je trouve fascinant avec l'outil théâtre c'est justement la transformation sur scène de ce qu'on peut faire d'un épisode réel ou pas, en tout cas qu'il y ait une sublimation. Là on est dans un procédé très explicatif qui du coup m'a fait sentir un peu comme une outre qu'on avait envie de remplir, à qui il fallait absolument expliquer, surexpliquer tous les détails de cette histoire pour vraiment que rien ne manque. Et la place qu'on ne m'a pas laissée, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune place pour le cerveau du spectateur, tout est donné à lire, à entendre, à voir, sans qu'on puisse avoir un moindre recul sur ce qui est sur le plateau. Et le manque de place m'a quand même beaucoup gênée.
Caroline Châtelet.
Alors, je vous rejoins, Marie Sorbier, sur ce spectacle, en fait, qui est plein, en fait, et aucune place n'est laissée au spectateur. Alors, évidemment, comme nous tous, je partage aussi l'importance de ce propos, mais c'est vrai que, pour moi, le seul intérêt scénographique, c'est qu'on a dans la scénographie l'installation des deux plans que développe le spectacle. C'est-à-dire que la première partie, nous sommes dans l'espace intime de la famille, dans le cadre familial, et la deuxième partie, nous sommes au tribunal. Sachant que la première partie, même si on voit à certains moments des réunions de Gisèle Halimi avec des féministes, même si on voit la scène de ce jeune homme Daniel qui a violé Marie-Claire et qui est interrogé par des policiers, ce qui reste au premier plan, c'est l'espace de l'appartement de Marie-Claire, de sa petite sœur et de sa mère. Et c'est vrai que ça raconte vraiment aussi ce qu'a été ce procès, puisque ce procès, Gisèle Halimi, elle s'en est saisie pour en faire vraiment une affaire d'État et pour mettre en procès cette loi qui empêchait et qui condamnait l'avortement des femmes. Donc en plus, ça rejoint vraiment les problématiques féministes qui, à l'époque, disaient qu'il fallait se saisir du singulier et du personnel, et que le personnel et le singulier était politique. Mais ceci mis à part, c'est vrai que pour moi c'est un didactisme qui est beaucoup trop appuyé. Et donc tout est dit, tout est montré. Donc on a une mise en scène qui pour moi n'est pas réaliste. En fait on a une mise en scène qui est dans un réalisme d'image d'Épinal de ce que serait la France au début des années 70, puisque Marie-Claire Chevalier est violée en 1971. Donc On a la cuisine en formica bleu. Ce bleu se retrouve dans les costumes de Marie-Claire, de sa petite sœur et de sa mère. On a le bleu du cerceau avec lequel elle joue. On a une musique qui vient ponctuer et rythmer tous les changements de séquence. On a une lumière aussi très appuyée avec aussi beaucoup de bleu. On a à certains moments des recours à des typographies qui sont diffusées sur écran qui nous signalent les différents moments. Et par exemple, quand Marie-Claire se fait violer, la typographie qui signale un mois plus tard, là c'est une typographie enfantine. Donc tous les artifices scéniques sont là vraiment pour nous expliquer et surligner les choses. Et ça empêche absolument tout mystère et toute ambiguïté. Et je trouve que ça atténue et ça simplifie la puissance du propos.
On va développer tout ça, j'imagine. Philippe Chevillé.
Alors moi je suis pas d'accord. Et alors c'est paradoxal parce que moi je déteste justement les spectacles où on nous assène des mots d'ordre quand c'est incantatoire ou quand c'est trop simpliste. Et j'ai trouvé moi ce que j'aime dans ce spectacle, c'est d'assumer totalement le principe de dire on va raconter l'histoire intime et on va montrer le drame jusqu'au bout. Ça va être cash puisqu'on voit même du sang sur scène, l'avortement on le vit. Et ensuite on a ce procès et ce procès. On n'hésite pas à faire donc le procès avec ses témoins, un peu arrangé, mais c'est quand même Rocard qui parle, c'est quand même Delphine Seyrig, c'est quand même Simone de Beauvoir, et on se dit ça va être ridicule. Ben ça ne l'est pas parce que justement elle arrive elle y va franco, et je trouve que c'est très tenu. Et alors tous les aspects que vous disiez, les artifices du théâtre, bon peut-être qu'on peut les déceler, mais je pense que pour avoir cet impact sur le public, moi je trouve ça plutôt pas mal. Et d'autre part, je trouve que la poésie elle est présente, j'en parlais un peu dans le décor. Mais il y a un personnage qui est très important, et c'est une idée qui lui est venue au moment où elle faisait la mise en scène. C'est Martine Chevalier, qui est homonyme donc de Marie-Claire Chevalier. Elle a décidé d'en créer un personnage. Elle avait apparemment pas pensé au début de faire le personnage de Marie-Claire Chevalier aujourd'hui, qui vient un peu comme un corps grec, excusez-moi, au début et à la fin, dans des moments qui sont très très beaux, parce qu'on a évidemment ces comédiens qui sont formidables. Je pense qu'elle aurait peut-être pas fait la même chose si elle avait pas les comédiens de la Comédie Française. Et ça, je pense que ça fait passer ce propos qui est sans filtre, cash, on y va, on raconte cette histoire jusqu'au bout, dans tous les détails, et tant pis si on est un peu didactique.
Alors moi, ce didactisme, c'est pas non plus ce que je préfère au théâtre, vous le savez, mais je trouve qu'il y a quand même une très grande efficacité chez Pauline Bureau, tout ça dans l'écriture, dans la mise en scène. Je trouve, enfin, les 2h15 du spectacle m'ont semblé passer très vite, ce qui est quand même un signe subjectif, certes, mais très objectif aussi. L'ensemble de la distribution est quand même très investie. C'est quand même particulièrement émouvant de voir Danielle Lebrun sur scène, elle qui a été l'une des 343 signataires du fameux manifeste, hein, de ces femmes qui ont dit « j'ai avorté ». Alors, à un moment où donc c'était normalement condamné par la loi. C'est un spectacle... Bon, évidemment nécessaire, on est tous d'accord là-dessus, surtout que les lois anti-avortement reprennent quand même beaucoup de couleurs de par le monde, et singulièrement aux États-Unis. Donc c'est loin d'être gagné, ce droit des femmes à disposer de leur propre corps. Donc oui, moi je suis content. Mais le soir où j'y étais, il y avait énormément de collégiens et collégiennes, et là vraiment, les écouter parler à la sortie du spectacle, ça avait marché à plein. Alors oui, il y a une forme de didactisme, alors qui s'adresse peut-être aux plus jeunes générations, on n'est peut-être pas les spectateurs les plus idéaux, encore que moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce spectacle, mais en tout cas, celles et ceux, peut-être à qui il s'adresse davantage qu'à nous, à savoir des gens moins informés, qui connaissent pas forcément cette histoire, moi j'ai constaté un enthousiasme, parce que la forme aide à cela, à faire passer quand même ces messages qui sont essentiels aujourd'hui comme hier. Des réserves, je peux en avoir, comme j'en ai eu sur d'autres spectacles de Pauline Bureau, effectivement, à vraiment forcer le trait et parfois être... un peu trop simpliste. Là, je trouve que le simplisme, elle a quand même mis de côté, puisqu'elle a une histoire qu'elle raconte. Bon, voilà. Je vois que vous avez envie de réagir les uns les autres. Caroline Châtelet.
Oui, mais moi, je reviens sur cette question de simplisme qui s'incarne particulièrement dans le procès. Donc, en fait, c'est vrai que le procès, Pauline Bureau, elle s'est appuyée sur... elle reprend des extraits des minutes du procès de Bobigny. Donc, ça a été publié. Donc, ce n'est pas du tout le procès de Marie-Claire Chevalier. C'est le procès de sa mère, de ses collègues de travail qui l'ont aidée et de la femme qui a procédé à l'avortement. Et en fait, c'est un procès qui est passionnant à lire. Enfin, la plaidoirie de Gisèle Halimi, elle est géniale et elle fait théâtre en soi. Or là, Pauline Bureau, elle en rajoute. Et on a par exemple Michel Rocard qui est député qui intervient. Donc le comédien qui joue...
Alexandre Pavlov.
Merci. Eh bien, il fait les intonations, enfin, il imite les intonations de Michel Rocard. Or, pour moi, ça ne sert strictement à rien.
Le fait plutôt bien.
Ça écrase le propos. Delphine Seyrig, donc, qui avait signé le manifeste des 343, qui faisait partie du mouvement Choisir, donc, qui était cette association des femmes qui défendait le droit à l'avortement. On a une comédienne, enfin, la comédienne qui interprète Delphine Seyrig arrive avec les cheveux blonds détachés, les lunettes de soleil. Enfin, en somme, elle est dans l'interprétation d'une caricature de Delphine Seyrig comédienne, alors que Delphine Seyrig n'était pas que ça, n'était pas que cette image en papier glacé. Et moi, je trouve que vraiment, déjà, il y a une manière de ne pas faire confiance au spectateur, en fait. Une manière peut-être de vouloir travailler à tout prix son adhésion. Et puis, et au final, quitte à concevoir quelque chose d'assez univoque.
Philippe Chevillier.
Moi, je suis pas du tout d'accord avec Caroline sur le jeu, parce que ça fait partie effectivement de la scénographie et de l'esthétique du spectacle de les représenter de façon un peu comme des archétypes, donc l'archétype de Simone de Beauvoir, l'archétype de moi le soir où je l'ai vu, même s'il avait quelques intonations de Rocard, Pavlov c'était pas Rocard et Simone de, c'était pas du tout une imitation et Daniel Lebrun dans Simone de Beauvoir c'est pas une imitation mais elle est Simone de Beauvoir le soir où je l'ai vu. Il y avait c'est justement le jeu des comédiens français à mon avis leur permet de dépasser le mimétisme qui aurait été une catastrophe. Alors je comprends, oui, Delphine Seyrig, c'est pas le personnage que je préfère. Mais pour le reste, je trouve que c'est assez gonflé de les faire venir, de leur donner une dimension de tout d'un coup que ces personnages de notre histoire deviennent des personnages de théâtre avec le côté un peu aussi des Harlequin ou je sais pas, enfin de personnages de théâtre justement.
Oui, parce qu'ils jouent chacun plusieurs rôles hein, qui plus est, hein, c'est Marie Sorbier.
Oui, moi aussi, les imitations m'ont vraiment beaucoup gênée. J'étais carrément gênée. Hein. J'avais l'impression de me retrouver dans des vieilles émissions.
Des imitations pour moi.
Pour moi, ça en était vraiment sur Rocard. C'est de la avec caricature. Les yeux qui plissent et puis le phrasé si particulier. On était dans une imitation. Moi, ça m'a fait alors complètement sortir de toute cette partie-là, alors que j'avais envie d'écouter, parce que en effet le texte est très beau et ce qui est dit est important, mais le surjeu ou la surexplication encore une fois est pénible à vivre et en effet imposé. Et je trouve que les spectacles qui imposent c'est assez insupportable. Et juste revenir aussi sur la première partie, parce que peut-être qu'on l'a pas dit, mais les deux parties sont assez différentes, je trouve, dans l'esthétique. On a une première partie qui pourrait ressembler à certaines scènes de Pomera ou même pour Saïgon de Caroline Nguyen, on est dans cette esthétique-là, c'est-à-dire un peu exactement ce que vous avez dit, image d'Épinal et efficacité. Hein. C'est les deux mots que je reprendrai qui pour moi sont quand même tout ce que je déteste au théâtre, je crois. Donc il y a quelque chose de très offert, livré et qui du coup devient, si je tire un peu le fil, un peu vulgaire tellement on veut le montrer et on veut dévoiler tout ce qu'il y a derrière. Il n'y a en effet aucun mystère.
Bon, on est quatre, on a eu deux perceptions très différentes de ce spectacle, mais à noter de façon intéressante qu'Émilie Rousset et Maya Bocquet vont proposer dans le Festival d'automne à Paris un spectacle Reconstitution 2. Le procès de Bobigny. Ça commencera le 10 septembre au Théâtre de Gennevilliers. On sera curieux d'y aller voir et de pouvoir voir comment d'un même matériau deux spectacles vont naître. Philippe Chevillier, dernier mot, vraiment tout petit.
Le dernier mot, c'est je trouve que le mot de vulgarité est un peu exagéré.
Oui, moi je
parce que franchement...
Oui, je ne reprendrai pas à mon compte, j'étais passé dessus.
Quand même.
Bon, allez voir par vous-même. C'est hors la loi. C'est hors la loi en l'occurrence. Elles sont plusieurs. Textes et mises en scène de Pauline Bureau. C'est à la salle du Vieux Colombier pour la Comédie Française jusqu'au 7 juillet. On va parler ensuite de deux courtes pièces de Frédéric Bradberg montées l'une à la suite de l'autre, Retour et Le Père de l'Enfant de la Mer, et puis on parlera d'une adaptation de La Recherche du Temps Perdu. Je poussais donc le temps avec les pôles, on parlera de la quadriennale de Prague et puis de À mon seul désir de Gaël Bourges.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute, donc avec Retour et Le père de l'enfant de la mère, deux courtes pièces de Frédéric Bradberg, mise en scène Frédéric Belli-Garcia jusqu'au 30 juin au Théâtre du Rond-Point. J'avoue que moi je n'avais jamais vu de pièce de cet auteur norvégien qui a 40 ans, qui est traduit dans une vingtaine de langues, dont seules trois pièces, en comptant les deux de ce soir, ont été jouées en France pour l'heure. Bradberg qui est également musicien, compositeur, j'ai vu qu'il avait écrit nombre d'œuvres musicales, y compris même un opéra, et c'est vrai que la dimension musicale de l'écriture, on va sans doute en parler, est assez évidente. Ces pièces ressemblent à des fugues musicales, des thèmes, des répétitions, des variations, on va en parler, mais une première impression sur ce spectacle, Caroline Châtelet.
Alors c'est un diptyque grinçant où la répétition de la structure permet de révéler un peu les névroses familiales.
Philippe Chevillier.
Je dis un petit peu la même chose, parce que je vois une drôle de fugue en deux mouvements, démontant par l'absurde la cellule familiale.
Et enfin, Marie Sambier.
Moi, j'étais très heureuse de découvrir un nouvel auteur nordique.
Je pourrais redire un peu de tout ça, mais bon. On va écouter un extrait, parce que lorsque débute Retour, alors c'est au pluriel, hein, évidemment c'est important de le dire, les parents de Gustave sont désespérés. Leur fils a disparu, comme ça, du jour au lendemain, et ils n'arrivent pas à faire leur deuil.
Oh, Gustave ! Mon cher Gustave ! Est-ce que j'ai pu pleurer, Gustave ? Est-ce que j'ai pu pleurer ? Oh, mon Dieu, Gustave ! Est-ce que j'ai pu pleurer ? Mon Dieu, est-ce que ta mère a pu pleurer ? Mon Dieu, Gustave, mon Dieu, ce que j'ai pu pleurer.
Vous vous demandiez où j'étais ?
Mais oui, oui. Pourquoi n'as-tu pas donné signe de vie ?
On était si inquiets, si inquiets.
Mon Dieu, ce qu'on était inquiets. Mon Dieu, ce qu'on était inquiets.
J'étais parti en place de neige pour faire du ski. Et puis je me suis paumé. J'ai voulu rejoindre les autres, mais je faisais que me perdre encore plus.
Oh, mon Gustave.
Au bout de quelques heures, il a commencé à faire nuit. Et c'est alors qu'elle a dévalé l'avalanche. Une énorme avalanche. Oh, mon Dieu, Gustave. J'ai voulu m'enfuir, mais c'était trop tard. L'avalanche était trop grosse, trop rapide. Alors...
Alors ?
Alors, je me souviens plus de rien.
Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ?
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je me souviens plus de rien. Jusqu'à ce matin, je me suis réveillé dans la bruyère et puis je me suis traîné jusqu'ici.
Cette fois, c'est Marie Sorbier qui va nous décrire le dispositif, la scénographie. Vous avez parlé de scénographie dans votre coup de cœur. Allons-y pour celle de Retour et le père de l'enfant de la mère.
Alors en fait, il y a deux scénographies, puisqu'il y a donc deux courtes pièces qui s'enchaînent. On commence par un intérieur, qui est un intérieur assez contemporain, avec d'un côté un salon, avec comme papier peint l'évocation des forêts nordiques, et puis une fenêtre qui permet d'observer notamment le chien du voisin, et puis de matérialiser la tente, qui est un élément quand même important de ces deux pièces. Et de l'autre, une cuisine, lieu de la vie quotidienne, où vont se passer un certain nombre de pièces, de scènes également dans la pièce. En fond de scène, un couloir. On devine une porte d'entrée, elle aussi, qui va jouer un rôle important. Et puis, de l'autre côté du couloir, on imagine la suite des appartements. L'entre-deux pièces se déroule à vue. Les murs sont déshabillés. Et on apparaît, au fur et à mesure de ce déshabillage, le squelette, une architecture, la structure, en fait, de cet appartement, dont il ne reste que les arêtes, avec des néons qui les éclairent. On est dans un univers un peu plus contemporain, ou en tout cas abstrait, mais on devine quand même tout à fait l'appartement. Et il y a d'ailleurs toujours la table à manger et puis le canapé. On y reconnaît voilà, toujours un foyer, on est vraiment à l'intérieur de quelque chose. Et puis avec, dans la deuxième partie, quand même un lien avec l'extérieur, puisqu'il y a des entrées et des sorties.
Très belle description. Et maintenant, on va parler de ce spectacle double. Caroline Châtelet, pour commencer, vos impressions sur ce double spectacle.
Alors mes impressions, elles sont doubles, justement. Donc c'est vrai que retour, comme vous le disiez, c'est au pluriel puisque on attend les retours du fils, donc un couple de parents a perdu son enfant, il le pense mort, c'est ce que nous entendions dans l'extrait. L'enfant revient, il n'est pas mort, et la pièce se construit comme ça sur une répétition de la mort du fils. Et avec cette répétition se joue aussi une accélération. Donc chaque mort de l'enfant est de plus en plus rapide, il y a de moins en moins de laps de temps.
N'en dites pas trop, hein, Caroline.
D'accord, je ne vais pas dire.
Ah bah non, bah certainement pas. Il y a des retours.
Il y a des retours, mais ce retour, c'est aussi un retour en arrière, puisque les parents parlent au passé, et donc ils sont de plus en plus présents, non plus en train de vivre les événements, mais de nous les raconter. Et c'est vrai que cette mécanique de l'écriture, elle se retrouve dans le père de l'enfant de la mère, mais elle se retrouve encore poussée à son extrémité. C'est-à-dire que dans le père de l'enfant de la mère, la scène qui est répétée, c'est la mère qui tous les jours rentre du travail à vélo, vient chercher son compagnon pour qu'il porte le vélo et les cabas de course qu'ils sont accrochés au vélo, et mon Dieu que c'est lourd. Et toujours se joue entre les parents une sorte de rivalité pour s'occuper de Frida, la petite fille. Et donc, tout comme ce procédé d'écriture répétitive, il est presque concentré et ramené à son essence dans le père de l'enfant de la mère, la scénographie, elle est évidée. Et donc, ce qui fait qu'on passe de ce que vous disiez, Marie, un espace plein avec un appartement, à une scénographie qui est mise à nu, où n'apparaît plus que le squelette. Plus que le squelette aussi des situations qui se jouent. Et alors, autant je trouve que Retour fonctionne très bien sur cette idée de la répétition et de la variation. Donc en fait, il faut savoir que Frédéric Bradbert, qui est jeune en fait, qui a 40 ans, 40, 41 ans, il a une formation de musicien classique. Mmh. Et on retrouve comme ça cette idée de structure cyclique avec des reprises et des variations, avec l'idée de mouvement. Et autant je trouve que tout cela, ça fonctionne très bien dans Retour avec quelque chose de très grinçant, un humour noir qui arrive, le fantastique. Autant dans le père de l'enfant de la mère, c'est comme si la mécanique s'épuisait. Et peut-être aussi que les comédiens n'arrivent pas forcément à s'en saisir, ou que Frédéric Bélier-Garcia ne sait pas tellement par quel bout saisir aussi cette épure-là dans la répétition pour cette deuxième pièce.
Philippe Chevillet.
Moi, j'ai bien aimé le fait qu'elle soit associée, parce que je pense effectivement que la deuxième pièce est peut-être un petit peu plus difficile, un peu plus faible, parce que là, c'est carrément, on est dans de la répétition quasiment systématique, et en fait, c'est presque à un mot près, à des intonations qu'on peut voir la menace et la violence se déchaîner finalement dans le couple. Dans les deux cas, c'est quand même extrêmement cruel, parce que sous l'angle de l'humour noir, on a quand même le droit à un adolescent qui meurt plein de fois dans la première partie. Dans la deuxième, on a le droit à un enfant déchiré entre deux parents qui est d'ailleurs manipulé comme une marionnette, puisque le jeune homme qui est le jeune comédien qui est très très bien d'ailleurs,
moi j'avais Dimitri Doré
qui joue le rôle de l'adolescent, est le manipulateur de l'enfant qui est un enfant pantin quelque part. Mmh. Et donc moi j'ai bien aimé la façon dont je trouve que Frédéric Bélier-Garcia il arrive bien à s'attaquer à des objets un peu bizarres comme ça, des pièces absurdes, il les mène bien, il a une direction au cordeau, un très bon trio de comédiens, et du coup il arrive à leur faire jouer, alors dans un tempo qui est pas forcément évident, parce que c'est un mid-tempo, comme on peut dire dans le rock ou dans la pop, c'est un tempo moyen pour que c'est ni trop rapide ni trop lent, mais du coup parfois on est un peu entre deux pour qu'on puisse saisir toutes les nuances. Et c'est vrai que dans une première partie on est surpris, dans la deuxième on est moins surpris, mais je trouve que le jeu des comédiens qui est la violence qui monte est quand même assez puissante, et que l'ensemble c'est quand même une belle découverte à la fois d'un auteur, et puis une belle mise en scène qui nous fait et un beau trio de comédiens, parce que Jean-Charles Clichet, Camille Chailloux et Dimitri Doré.
Chailloux, vous avez dit Chailloux. Donc je corrige Chailloux. Voilà. Et Dimitri Doré.
C'est vrai, ça fonctionne très très bien, et ils sont très, très, vraiment excellents.
Retour, le père de l'enfant de la mère, Marie Sorbier.
Oui, je trouve que c'est une belle partition pour des comédiens. Quand je les voyais jouer, je me disais que quand on doit être comédien et qu'on a un texte comme ça à jouer, ça doit être assez jouissif, parce que ça se joue sur des nuances, notamment sur le second qui est en effet plus difficile. Mais qui est intéressant dans cette difficulté-là, parce que c'est vraiment une partition. Le texte est créé comme une partition, on l'a dit, ça ressemble presque à une ritournelle, à des fugues, je ne sais pas quel est le bon terme.
Oui, c'est bien.
Mais ces nuances-là, ces couleurs différentes qui se jouent et dont ils s'approprient justement toutes les nuances, c'est assez beau à voir. Alors, c'est vrai qu'au bout d'un moment, Moi, j'ai aussi vécu une certaine lassitude parce que c'est sur la deuxième pièce, notamment, les boucles répétitives de texte sont assez courtes. On revient très vite à la même situation. Donc, ce que vous disiez, le vélo, les courses, l'enfant, la dispute de l'attention de l'enfant, qui est le meilleur parent, qui elle aime plus, toutes ces problématiques-là qui ressortent. Et selon l'attention et l'intention des comédiens, la même boucle prend une signification différente. Mais je voulais revenir sur l'interprétation, ce que j'ai trouvé moi, en effet aussi, Jean-Charles Cliché et Camille Chamou en couple, comme ça, en train de se disputer cet amour de l'enfant, assez juste, assez virtuose, et par moments, j'étais assez emportée par cette boucle répétitive.
Alors c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure en ouverture, Marie Sorbier, moi ce qui me réjouit, c'est de découvrir une nouvelle écriture contemporaine, que je ne connaissais pas, et en l'occurrence qui me réjouit plutôt. Et du coup, il y a un petit temps d'adaptation, enfin moi j'ai eu ça au début du spectacle, savoir où est-ce qu'on est, dans quel registre est-ce qu'on est, et j'aime bien cet état d'incertitude que ça peut donner, une situation faussement naturaliste comme ça, mais qui, on voit très vite que ça va dévier à cause de la répétition, à cause de la variation. Donc moi j'aime beaucoup ça, ces principes-là, donc j'ai été servi. Ce trio, en effet, il est très intéressant parce que chacun des comédiens apporte une personnalité propre, très différente, et ils sont tous les trois, Jean-Charles Cliché, Camille Chamou et Dimitri Doré, à la fois... Oui, encore une fois dans le naturalisme, mais en même temps très inquiétant. Il y a toujours quand même, on sent justement qu'on ne sait pas ce qui va se passer, parce qu'on se dit, mais après cette répétition-là, comment est-ce que ça peut se décaler dans un sens, dans un autre. Donc c'est quand même une écriture qui, même si elle est répétitive, elle tient en haleine, en tout cas pour moi, parce qu'on se dit, à la prochaine variation, il va peut-être y avoir un drame. Et de fait, ça arrive. Et quant à savoir, fallait-il jouer la première pièce avant la deuxième, etc., etc. Je pense qu'il n'y a effectivement pas de bonne solution, puisque le père de l'enfant de la mère, elle est d'une plus grande radicalité. Vous l'avez dit très bien, tous trois. Alors, si elle était jouée en premier, elle pourrait rebuter. Là, on aurait quand même peut-être beaucoup plus de mal à entrer dans la soirée de spectacle. À l'inverse, c'est vrai que retour à un rythme très soutenu qu'on ne retrouve pas, en tout cas qui donne pas la même sensation dans la deuxième pièce, qui peut paraître trop longue, mais je crois que c'est un spectacle qui, en tout cas là encore, évidemment, je parle comme toujours pour moi, qui a un effet longue durée, y compris après l'avoir vu. Donc ça fait, je sais pas, une petite... Je sais plus quand est-ce que j'ai vu ça. Une petite semaine peut-être maintenant. Et ben du coup le spectacle travaille, ce qui est quand même toujours bon signe, et ça me donne envie de retrouver cette écriture-là, Philippe Chevillier.
Oui, mais j'avais l'impression d'un poison lent, en fait.
Oui, parce que,
on se rend compte que ces écritures nordiques, elles sont toujours extrêmement désespérées, parce que la présentation à la fois des parents, mais aussi, on parlait du côté inquiétant de l'adolescent, un peu côté zombie, la façon dont est traité l'enfant dans la deuxième partie, on a l'impression d'une solitude de chaque élément, le père, la mère et l'enfant, d'un narcissisme, d'un égoïsme.
Oui, il y a trois entités, oui, vraiment.
C'est assez terrible ce que ça raconte, et ce que vous disiez, c'est, dans la salle, on a les gens qui rient, d'autres qui sont glacés, et pas toujours au même moment. Ça. Moi-même, d'ailleurs.
C'est bon, c'est vous-même non plus. Vous ne saviez pas vous-même. Caroline Châtelet.
Oui, c'était justement pour revenir sur cette question des répétitions. Au final, ça raconte quelque chose aussi, que ce soit dans l'une ou dans l'autre pièce, parce que dans Retour, ça raconte, même si c'est sur l'humour noir et par le biais du fantastique, ça raconte qu'on peut s'habituer à tout, même au pire, en fait. À partir du moment où le pire devient banal, on en prend son parti, on s'en accommode. Et la deuxième pièce, même si pour moi elle fonctionne moins bien dans la mise en scène, cette répétition-là, comme ça, qui est très factuelle, vraiment, on a juste les petites scènes du quotidien, ça raconte le délitement d'un couple et l'impossibilité de ce duo à construire une relation stable et harmonieuse avec l'enfant, et comment petit à petit, justement, ça devient un poison, comme vous le disiez, quoi. Et eux-mêmes, à la fin, même si eux-mêmes, à la fin, ils s'échappent même du dispositif théâtral, ils respectent plus les conventions, enfin, les personnages, quoi, tellement ils sont pris dans la répétition... de leurs habitudes.
Un petit mot, Marie Sorbier.
Oui, juste un dernier mot, dire que c'est agréable en fait d'être surpris au théâtre. Et en effet, les nouvelles écritures, c'est ça qui est intéressant. C'est ce que vous disiez, Arnaud, au début du spectacle, on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre.
On ne sait pas si on est chez Pinter.
On ne sait pas si ça va être tragique, ça va être drôle.
Celui du boulevard.
Il y a le moment où ça se décale, où on se dit mais vers quoi il va. Et ça, c'est assez agréable en tant qu'expérience spectateur de se laisser prendre et d'être surpris.
Allez vous faire surprendre. Allons voir Retour et le père de l'enfant de la mère de Frédéric Bradberg, mise en scène Frédéric Bélier Garcia. C'est jusqu'au 30 juin au Théâtre du Rond-Point. C'est l'heure du coup de cœur, et même des coups de cœur, parce que je vais faire un petit post-scriptum. Mais là, vrai, si je puis dire, coup de cœur, c'est celui de Marie Sorbier pour la quadriennale de Prague. C'est jusqu'au 16 juin, la quadriennale consacrée à...
À la scénographie. Et alors, je trouve ça incroyable, parce que moi, je ne savais pas que cet événement existait. Donc, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, je me suis dit que c'était quand même étonnant d'imaginer qu'il existait quelque part une quadriennale de la scénographie et des architectes de théâtre. Alors comment ça se passe? Un peu comme à Venise, mais plus ambiance saucisse-bière que tapis rouge, mais c'est quand même un peu le même principe. On est dans des grandes halles, un petit peu à l'extérieur de Prague, des halles très belles, et 80 pays cette année étaient invités, donc c'est quand même d'envergure internationale. Chaque pays a deux stands, deux pavillons. Un pavillon pour un scénographe reconnu qui l'envoie, un représentant, et puis un pavillon pour les écoles. Et c'est ce qui fait la spécificité de cet événement et qui en fait un événement très intéressant. Donc pour la France, je fais une petite parenthèse, c'était Philippe Ken qui avait été à qui on avait demandé de représenter la France pour cette quadriennale, qui a fait un pavillon à la Philippe Ken, très immersif. On était dans une cabane en bois avec des personnages un peu étranges, des monstres, mais des gentils monstres. On est plutôt du côté des Barbapapa, avec cette lumière verte assez caractéristique, ce piano fantôme qui joue, et puis les gens qui déambulent et qui regardent ce qui se passe à travers cette cabane en bois, à travers des fenêtres.
On ne peut pas rentrer dedans, on regarde l'extérieur.
On regarde à l'extérieur, on regarde à travers des vitres, et puis sur le côté de cette cabane en bois est écrit en énorme « Nos natures, nos futurs ».
D'accord.
Voilà, et qui clignote par intermittence. Ça, c'est pour le pavillon de Philippe Ken, qui a eu beaucoup de succès au week-end d'ouverture. C'était un des pavillons qui était assez demandé. Et le pavillon des écoles, c'est là où je voulais dire un mot, parce que c'est quand même un peu la spécificité de ce programme. La France a choisi de demander aux 8 écoles de scénographie française de déléguer un de leurs représentants. Et ils ont créé la 9e école, avec chacun, ce qui est assez intéressant comme projet. Et Philippe Ken, qui les a accompagnés et coachés pour arriver jusqu'à donc cette quadriennale. Ils ont créé un pavillon qui est assez intéressant. C'est un camion, comme un food truck. Et avec à l'intérieur des matériaux, qui sont des matériaux recyclés et recyclables. Et ils en font une espèce de montagne comme ça, pareil avec des lumières assez étonnantes où on peut s'asseoir pour pouvoir voir des performances, voir des films, parler. C'est un espace assez immersif et de convivialité. Ce qui est intéressant, c'est que ce pavillon, vous pourrez le voir à Avignon, puisque la quadriennale, enfin la présence française à la quadriennale de Prague a décidé de reprendre ce pavillon des écoles qui sera exposé à la Maison Jean Villard le 10 juillet dans le cadre des 12 heures de la scénographie. Donc c'est assez intéressant d'aller parler avec ces 8 jeunes qui sont des scénographes de demain et qui ont des choses vraiment intéressantes à dire sur l'espace, comment on l'occupe, ce qu'ils veulent en faire et ce qu'est pour eux la scénographie. Ça c'est pour la partie française, mais sinon pour vous parler aussi de l'événement, donc je le disais, il y a 80 pays, c'est assez jouissif de déambuler dans ces allées et c'est des rêves d'enfants, c'est-à-dire qu'on déambule dans des maquettes, chacun a le même espace, donc il y a des scénographies montées en entier ou il y a des petites maquettes dans le même espace où on a plusieurs et on déambule dans le cerveau des gens et dans ce que pourrait être une mise en scène. Donc c'est un événement qui n'est pas du tout réservé aux professionnels, ce qu'on pourrait croire a priori, parce que je pense que vraiment tout le monde peut y aller, voir, regarder et rêver avec les gens qui essayent de créer plastiquement ce que pourraient être les scènes de demain.
Est-ce qu'il y a un palmarès à cette quadriennale?
Tout à fait. C'est vrai? Qui va être, je crois que c'est demain le
ouh là là. Voilà. Bah, il faudra qu'on annonce les prix la semaine prochaine dans
tout
cette émission.
Tout à fait. Juste pour dire un dernier mot, aussi pour expliquer pourquoi cette quadriennale de Prague n'est pas très connue en France, c'est que la France n'y était plus représentée depuis 2003 pour des raisons diplomatiques. Et cette année, c'est le grand retour de la France à la quadriennale de Prague. Donc c'était aussi un événement qui a été fêté dignement sur place, où le pavillon a été inauguré avec toutes les huiles nécessaires. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant et de palpitant à aller vivre.
Je suis ravi que ça existe et j'espère que dans 4 ans...
Vous pourrez y aller.
J'irai à Prague pour découvrir cette quadriennale. Merci Marie Sorbier et merci aussi de me permettre de me glisser rapidement dans ce moment coup de cœur pour signer un spectacle que j'avais beaucoup aimé, qui est un spectacle de Gaël Bourges, À mon seul désir. Il se trouve qu'il va être donné cette semaine les 13 et 14 juin au Carreau du Temple à Paris. Un spectacle qui avait été créé en 2015 au Festival d'Avignon et Gaël Bourges y poursuivait son travail sur la question de la nudité, du regard qu'on porte sur la nudité. À la fois dans l'histoire de l'art, mais aussi d'une façon dans l'histoire sociale. Un spectacle qui s'origine dans une œuvre à la fois célébrissime et toujours mystérieuse, qui est La Dame à la Licorne, tapisserie qu'on peut voir au musée de Cluny, on en parle régulièrement dans cette émission. À mon seul désir, c'est le titre du 6e panneau de cette Dame à la Licorne. Il vient après les 5 premiers qui représentent les 5 sens. Sur scène, on a des interprètes nus, je préviens quand même, épilés, je préviens également, qui portent des masques, je préviens aussi. Il y a beaucoup de lapins, qui déambulent, mais c'est comme dans la tapisserie elle-même, et ces lapins, évidemment, ils sont un peu ambivalents dans les sens, puisqu'ils sont censés être l'opposé de la licorne, qui, elle, est le symbole de la virginité. Donc, il y a, bon, vous aurez compris, une sorte de traversée du miroir, comme pour Alice, mais ici, on entre dans la tapisserie, et on ne faut pas en dire beaucoup plus, parce que c'est vraiment une pièce qui sollicite les sens, l'imagination du spectateur, et donc chacun fera son voyage dans À mon seul désir, donc de Gaël Bourges, qui va être donné 13 et 14 juin au Carreau du Temple à Paris.
France Culture, La Dispute. Arne Laporte.
Le dernier spectacle à notre affiche ce soir, c'est Je poussais donc le temps avec l'épaule. Temps 1. D'après À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, c'est une mise en scène de Charles Torgeman avec Serge Maggiani, présentée jusqu'au 22 juin au Théâtre de la Ville dans son espace Cardin. Avant d'en entendre un extrait, Caroline Châtelet nous dire quel est le parti pris de ce spectacle d'après Proust. Hein, il se succède ces spectacles. Premier volet, puisque c'est un diptyque, et premier volet enfin d'une création déjà ancienne, faut-il le préciser. Caroline Châtelet, comment on fait avec À la recherche du temps perdu pour faire deux spectacles qui, j'imagine, le deuxième durera comme celui-ci une heure à peu près?
Oui, alors en fait, juste le deuxième volet a déjà été créé. En fait, c'est
oui,
la reprise.
Bien sûr. Oui, c'est le premier il y a 20 ans, et voilà, le deuxième aussi, mais là, on voit pour l'instant le premier.
Voilà, on voit le premier. Donc, en fait, Serge Maggiani se saisit d'extraits issus des 3 premiers tomes, Du côté de chez Swann, À l'ombre des jeunes filles en fleurs et Le côté de Guermantes. Et en fait, c'est pas du tout une adaptation au plateau, ni une mise en scène de Marcel Proust. Serge Maggiani ne représente pas Proust et son livre. On n'a pas non plus les paysages qui sont représentés, ou en somme, on a des figures qui sont évoquées à travers les fragments choisis et des souvenirs. Et tout cela, donc, s'est installé dans un dispositif scénique blanc, une sorte d'espace abstrait qui ménage justement au mieux l'évocation des souvenirs et de la mémoire, avec une lumière tamisée qui va varier en couleur et en intensité. Serge Maggiani, il occupe cet espace un peu ouaté. Lui, il est vêtu de noir, d'un pantalon et d'une grande veste noire. Le fait un peu intriguant, c'est qu'il est en chaussettes. Donc, tout à coup, on se dit que ce n'est peut-être pas quelqu'un, un homme comme ça, qui est dans la rue. Enfin, comme si tout de suite, il était peut-être à moitié en état de veille ou entre la veille et le songe. Donc, c'est un dispositif, en fait, dont le parti pris laisse toute la place à la langue et à l'évocation des souvenirs.
Un extrait de ce spectacle.
Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes. Que vers le matin, après quelque insomnie, le sommeil le prenne en train de lire dans une posture trop différente de celle où il dort habituellement, il suffit de son bras soulevé pour arrêter et faire reculer le soleil. Et à la première minute de son réveil, il ne saura plus l'heure, il estimera qu'il vient à peine de se coucher. Et quand je m'éveillais au milieu de la nuit, comme j'ignorais où je me trouvais, je ne savais même pas au premier moment qui j'étais. Et je passais en une seconde par-dessus des siècles de civilisation. Et l'image confusément entrevue des lampes à pétrole et puis de chemises à col rabattu recomposait peu à peu les traits originaux de mon moi. Mon corps, trop engourdi pour remuer, cherchait, d'après la forme de sa fatigue, à retrouver la position de ses membres pour en induire la direction des murs, la place des meubles, pour reconstruire et pour nommer la demeure où il se trouvait, sa mémoire, la mémoire de ses côtes, de ses genoux, de ses épaules, lui présentait successivement plusieurs des chambres où il avait dormi. Tandis qu'autour de lui, les murs invisibles, changeant de place, selon la forme de la pièce imaginée, tourbillonnaient dans les ténèbres. Aussitôt, je me disais, « Tiens, j'ai fini par m'endormir. »
Voilà pour cet extrait de « Je poussais donc le temps avec l'épaule », en ce moment au Théâtre de la Ville à l'Espace Cardin. Il y aura d'autres dates cette fin de saison et puis aussi la saison suivante que je donnerai dans un instant. Marie Sorbier sur ce spectacle.
Oui, j'ai trouvé qu'il était intéressant à interroger sur justement la recréation d'un tel spectacle. On devine, je trouve, en écoutant Madiani pendant cette heure et quelques dure ce spectacle, à quel point il a ingéré ce texte, à quel point il est presque devenu le texte. On sent que ça l'habite totalement, qu'il respire, qu'il transpire avec. Et ça, c'est assez émouvant à voir ça. Je me souviens qu'on avait dit la même chose de Samy Frey et du Beckett il y a quelques mois ici. Premier amour. Donc ça fait partie de ces seules en scène avec un acteur, un texte majeur. Point. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de mise en scène appuyée. Il y a une scénographie qui est un peu particulière, on pourra peut-être en parler, mais l'essentiel, c'est une voix qui dit un texte. Malgré la performance, qui est une vraie performance d'acteur et que je renie pas du tout, je me suis quand même un peu ennuyée, ou en tout cas, je suis moi aussi finalement partie dans mes rêveries et j'ai un peu perdu le fil des siennes. Je le retrouvais de temps en temps, c'était pas forcément gênant, mais il y a eu quand même un petit épisode d'assoupissement dans ce spectacle.
Philippe Chevillier.
Moi, je trouve que c'était une belle incarnation, émue de l'écriture et puis de l'infinie mélancolie de Proust, sachant que ben, Serge Madiani, c'est un comédien assez incroyable. On l'a vu chez Régis, Vitesse, on l'a vu chez Scaretti. Il est de la troupe de la Comédie Française, chez Demarcy Motta. Du Théâtre de la Ville, oui.
Vous avez dit la Comédie Française.
J'ai dit la Comédie Française.
La troupe de la Comédie Française d'Emmanuel Demarcy Motta. Je ne sais pas si vous lisez dans les boules de cristal, mais.
Non, je ne pense pas.
Non, au Théâtre de la Ville.
Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Oui, au Théâtre de la Ville, effectivement. J'ai pensé sans doute à la version de Proust que nous en donnerait Christophe Honoré à la Comédie Française. J'essaie de me rattraper comme je peux.
Et celle de Jean Bellorini au TGP et bientôt au TNP.
Exactement.
Allez, on fait de l'actu.
De l'actualité, de la news. Donc, revenons à nos moutons proustiens. Et ce que j'ai trouvé assez étonnant, ce que disait Marie, c'est ça, il possède vraiment le texte. Il y a une limpidité absolument incroyable, une fluidité, et on comprend absolument chaque mot. On est pris par. Il y a chaque intonation est juste. Et il y a en même temps chez lui, c'est quand même un comédien particulier qui a un phrasé particulier, très chantant, un peu naïf. Et du coup, il est sans arrêt, on a l'impression en train de contenir cette émotion qui est prête à déborder. Et ça tient, je trouve que moi je ne me suis pas ennuyé 1h10 durant, ça tient. Alors il faut dire que c'est une belle compilation, on a les tubes, on a la Madeleine, on a le début de l'œuvre.
Le coucher et l'attente du baiser de la mer. Voilà, c'est un peu le problème, non, quand même.
Alors peut-être, là c'est peut-être la limite.
Un peu le best-of, là.
Il y a un côté sans doute best-of et un peu frustrant, c'est-à-dire qu'on est... on est vraiment c'est trop court d'une certaine façon. Mais ce que j'ai trouvé beau, c'est de me dire qu'au fond, ça pouvait être une porte d'entrée pour des gens qui ont pas lu Proust et qui ont lu peu. Dans la mesure où tout d'un coup, on se dit que, lu d'une certaine façon, alors à voix haute, Proust peut être limpide. Parfois, un jeune lecteur peut être bloqué par la longueur des phrases. Et quand tout d'un coup, on prend le temps d'y mettre de s'y pencher et la voix presque de Madjani est peut-être plus claire que la pensée de certains lecteurs. Donc ça peut ouvrir les portes. Moi, je trouve que c'était un joli moment. C'est pas c'est pas une mise en scène de théâtre, même s'il y a un écrin qui est assez joli. Mais c'est un spectacle qui m'a plu.
Bon, avant de revenir sur différents points, maintenant le sentiment de Caroline Châtelet devant ce spectacle qu'elle nous a décrit tout à l'heure.
Alors d'abord, j'ai trouvé ça assez drôle en fait que ce spectacle joue alors que dans la grande salle du Théâtre de la Ville joue Mary Said What She Said, donc de Daryl Pintney monté par
de l'espace Cardin,
de Robert Wilson.
Si les gens vont en place du Châtelet, ils vont toujours trouver le Théâtre de la Ville fermé, hein,
oui.
Précise.
Donc spectacle donc qui a été évoqué à la dispute,
absolument.
Mais parce que on a ici dans une forme extrêmement modeste une manière de travailler les mouvements du comédien parce que les mouvements du comédien, la lumière, et qui est complètement désolidarisé de ce qui nous est donné à entendre en fait, puisque Serge Maggiani évolue sur scène, par moments il tourne sur lui-même, à d'autres il est allongé au sol, on a une lumière comme je le disais qui évolue, mais cela sans que ce soit forcément en lien avec les souvenirs évoqués, enfin quelque chose qui est vraiment la pure abstraction et où tous ces éléments entre eux pouvant tout à coup susciter des résonances. Et je me disais que c'était un petit peu la même chose quelque part à un autre niveau que le travail de Bob Wilson. Après, c'est vrai que même si c'est un comédien qui donc a intégré ce texte-là, le maîtrise, en plus c'est vrai que peut-être l'avoir créé il y a presque 20 ans et le reprendre, il y a comme ça une sorte d'ingestion et de maîtrise qui est réelle et qui est très belle à voir. Moi, j'ai aussi eu un moment de lassitude en fait, parce que je me suis dit en fait c'est très beau. C'est un travail, un exercice de style en fait, formellement c'est maîtrisé, c'est très soigné, mais en fait ça en reste là. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas sublimé, il n'y a pas de puissance esthétique. Et voir ceci en fait, ça m'a fait penser à autre chose qui est un texte de Nathalie Quintane, donc qui est autrice, qui est éditée chez POL et qui a publié un essai qui s'appelle Ultra Proust, et où elle, en fait, elle revendique le fait qu'il faudrait essayer de s'éloigner un peu parfois de la lecture sympathique et sensible de Proust, qui pour elle est encore dominante et qui bloque une lecture vivante et plus politique, qui voudrait l'arracher à sa seule lecture bourgeoise, consolante et esthétisante. Et en fait, en voyant ce spectacle, je me suis dit, ben voilà, ce spectacle se maintient dans cette lecture-là.
Marie Sorbier.
Je suis tout à fait d'accord à ce que vous disiez, Arnaud. C'est un peu le défaut du spectacle, c'est le montage de texte. En tout cas, le choix de texte qui a été fait, qui est un peu, en effet, le best-of. C'est-à-dire, c'est ceux qu'on connaît. Alors, on est content d'entendre les premières phrases. Et puis, il y a quand même le plaisir de la découverte qui n'y est plus. Enfin, en tout cas, qui n'y est pas. Même pour des gens qui ne sont pas des lecteurs férus de Proust, c'est quand même les passages qu'on connaît. Et ça aurait été peut-être un peu plus joyeux ou en tout cas enrichissant d'avoir justement, de peut-être aller chercher des passages moins médiatiques et d'avoir des surprises dans ce texte. Et là, on n'est pas surpris par les passages choisis.
Philippe Chevillier.
Voilà, la surprise, c'est encore une fois, Maggiani, c'est vraiment un comédien particulier où on peut être parfois pas forcément convaincu. Moi, j'aime beaucoup cet acteur et je trouve que... Il arrive à donner une impulsion nouvelle aux mots. Ça, j'avais peur en fait que le 20 ans après, ça paraisse recuit. Et j'ai pas eu cette impression-là. Mais encore une fois, j'ai pas le sentiment d'avoir vu un spectacle sur Proust. C'est autre chose. C'est un petit moment de grâce comme ça qu'il faut goûter. Il y a une forme d'humilité aussi, bien que ce soit un travail extraordinaire d'appréhension du texte et on a l'impression qu'il a tout compris, Maggiani, mais c'est pas une mise en scène, c'est pas un spectacle, même si encore une fois l'écran est pas mal. Enfin,
ah oui, vous vouliez en parler, Marie Sorbet, de scénographie, qu'est-ce que vous vouliez dire à son sujet?
Oui, parce que c'est ce qui m'a fait douter à un moment donné en me disant est-ce que c'est daté ou pas, parce que cette scénographie qui pourrait paraître contemporaine, c'est-à-dire c'est un drap tiré, on est dans un espace mental, on est, je sais pas, dans un navire ou dans un cerveau, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, un univers très abstrait qui joue de la lumière. C'est ce que vous disiez, Caroline. C'est-à-dire que l'élément principal de la scénographie, ça reste la lumière sur ce drap blanc. Mais je sais pas si cet écrin-là, finalement, empêche pas ou bloque pas l'accès direct au texte, parce qu'il est finalement assez présent.
C'est un peu plus qu'un drap, parce qu'il y a on a l'impression que c'est
comme une alcôve.
Ou une alcôve, un nuage. Alors lui, le mettant en scène, Torgeman, je pense, il parle de vaisseau spatial. Il y a un côté glacé. Et surtout, il y a un côté, il marche pieds nus. Encore une fois, on a un côté aussi un peu spectral, fantomatique. On a l'impression qu'on est au-delà du temps perdu.
Oui.
Caroline Châtelet.
C'est vrai que moi, je me suis dit aussi que peut-être elle était de trop, cette scénographie. Mais cette scénographie qui, pour le coup, n'est pas la même qu'à la création. En fait, là, elle est de Vincent Tortman, et donc ce n'est pas la même chose. Mais en fait, je me suis dit que oui, en fait, elle n'était pas forcément nécessaire et que le comédien suffisait.
Bon, après, la folie, c'est de comme au cinéma et comme au théâtre, de vouloir faire quelque chose avec la recherche du temps perdu. Que ce soit au cinéma, pour l'heure au théâtre, est-ce qu'on a déjà été absolument convaincu? Alors ici, à l'instant, Jean Bellorini avait plutôt recueilli de belles critiques. Moi, j'avais quelques réserves, mais c'était compliqué. Christophe Baïkowski, c'était quand même pas simple non plus. Enfin, c'était très loin d'être de Proust. On verra ce que fera Christophe Honoré l'an prochain, Philippe Chevillier.
Il prend le côté de Guermantes, lui.
Oui, bon. Enfin,
c'est déjà pas mal, hein.
C'est
pas toute la recherche en tout cas.
Non, mais c'est déjà un premier
qui se passe beaucoup dans les jardins des Champs-Élysées et pas loin.
Comme ce sera joué au théâtre Marigny, puisque ce sera la Comédie Française, les murs.
La Comédie Française à deux pas de l'Espace Cardin, qui est le théâtre de la ville en revanche.
C'est ça. Parce que la salle Richelieu va être en travaux. Voilà, donc sur les Champs, on aura le théâtre de la ville. Et la Comédie Française, bon, ça c'est pour la saison prochaine. Je poussais donc le temps avec l'épaule. C'est jusqu'au 22 juin à l'Espace Cardin, Théâtre de la Ville. La tournée 28 et 29 juin à l'Espace Bernard-Marie Coltès à Saulcy-Metz. 22 juillet au Jardin des Enfeux, officiel des Jeux du Théâtre de Sarlat. Du 28 au 30 novembre au Théâtre National de Nice. 6 décembre à la Grange à Dîmes à Écouen. 10 janvier 2020, Maison des Arts du Léman à Tournon-les-Bains. Et 14 janvier 2020, Le Manège à Maubeuge. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute avec joie, Aïssa Toundoï qui est là pour nous rappeler la question du jeu d'abord de vendredi soir et nous donner sa réponse. Aïssa Tou.
À quel film d'épouvante français daté de 1943, Zombie Child de Bertrand Bonello, se réfère-t-il? La réponse était Vaudou de Jacques Tourneur. Et la question de ce soir?
Ah bah attendez, d'abord, avant la question de ce soir, il faut dire qu'est-ce qu'on va gagner?
Qu'est-ce qu'on va gagner?
Qu'est-ce qu'on va gagner? Des invitations, pourquoi? Pour l'exposition Amazonie, le chaman et la pensée de la forêt. C'est au château des Ducs de Bretagne à Nantes jusqu'au 19 janvier. Et maintenant, Aïssa Toundoï, la question?
Quel roi transforma le château nantais en lieu de résidence principale de la cour ducale bretonne au XVIe siècle?
Voilà une bonne question. Si vous avez la réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales, bien sûr. Tout cela par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Toundoï, Lucille Comeau, Boris Pinault et Joséphine Dumoulin. Prise de son ce soir, Nasser Moussaoui. Réalisation, Alexandre Fougeron. Demain, 19h, dispute musique avec Emmanuel Dupuis, Charles Ardenne et Laurent Burry. Nous parlerons de Ariane et Barbe Bleue de Paul Ducasse. Disponible en vidéo sur Culture Box. C'est au Capitole à Toulouse que cette production avait été donnée. Le testament de la tante Caroline, c'est à l'Athénée Théâtre Louis Jouvet. C'est une opérette. Si j'ai aimé, c'est un disque de Sandrine Piau. Il y aura également un coup de cœur de Laurent Burry pour un livre, Les Silencieux de Laurent Villarem, chez Adéam Musica.